Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans les grandes étapes et évolutions de ta vie de freelance en t'emmenant avec moi à la découverte de nos pères indépendants. Laurent Vessade, mon invité de la semaine, fête dans quelques jours seulement son 20e anniversaire de freelance après s'être lancé à son compte en tant que designer produit au tournant de l'année 2000. 20 ans plus tard donc, aujourd'hui, il est spécialisé dans ce qu'il appelle les logos de conquête. Après avoir fait évoluer son activité au fil du temps, des évolutions du marché, mais aussi de son niveau de connaissance de lui-même. Et du coup, dans cet épisode, on discute avec Laurent de tous ses cheminements au fil de son activité, des leçons qu'il en retire, de sa vision de l'indépendance après avoir vécu ce mode de vie depuis maintenant 2 décennies complètes d'exploration. Et vous le verrez, c'est un épisode rempli de belles métaphores et de punchlines que je suis sûr vous aurez autant envie que moi de garder en tête. Moi, je m'en suis noté beaucoup. Mais du coup, juste avant de vous laisser avec Laurent et moi pour cette conversation, j'aimerais vous inviter à me rejoindre dans ma newsletter où je partage chaque semaine avec des centaines de freelances mes réflexions sur notre vie et notre activité d'indépendant au quotidien. Vous trouverez du coup même des cadeaux et des ressources offertes dans le premier mail et vous pouvez rejoindre cette newsletter sur mon site à www.thomasburbidge.com/newsletter. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode. Bienvenue sur le podcast, Laurent.
Merci, bonjour Thomas. Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. On a commencé à discuter à un moment donné sur LinkedIn. Alors, je sais plus exactement dans quel sens c'était. Je crois que tu avais commenté un post et on avait eu un débat assez intéressant et on s'était écrit par derrière.
C'est possible que c'était par LinkedIn. Mais je sais que... Oui, j'avais apprécié tes interventions et le recul que tu avais déjà sur le métier et sur le statut de freelance. Donc, je trouvais ça intéressant. que si jeune, si on puisse déjà avoir un peu de recul sur ce mot.
Là, je me souviens aussi, on avait essayé à ce moment-là, on s'était dit, tiens, ce serait intéressant d'enregistrer un épisode. Et moi, j'avais dit, bah, écoute, comme je l'ai fait tous en présentiel, je viendrai te voir en République tchèque. Parce qu'effectivement, tu es en République tchèque, pour ceux qui ne savent pas encore.
Je t'attendais à Prague et t'es toujours pas
Je suis toujours pas venu. On s'en tient pour l'instant à le
venu.
faire à distance.
Ok, mais la crise peut avoir du bon, c'est ce qu'on va essayer de
Bah, ça
faire.
a accéléré la discussion.
Ouais, je vois pas vraiment pourquoi je suis invité, parce que si je me souviens bien du nom du podcast, c'est Young, Wild and Freelance, et je suis aucun des trois. Je vais essayer de coller dans le moule.
Tu vas avoir plein de choses à partager, j'en suis sûr, t'en fais pas. Du coup, bah, commençons pour voir justement, mais je suis sûr que tu as plein de choses à nous apporter. Est-ce que tu peux du coup nous raconter comment, mais surtout pourquoi, tu es devenu indépendant?
Surtout pourquoi, c'est bien ça.
Surtout, ouais.
Ouais. Moi, en fait, à la base, j'étais designer produit, donc j'ai dessiné des téléphones, des objets médicaux, etc. Ce qui m'a amené rapidement à travailler sur des écrans, et puisque ces objets avaient des écrans à disposition, et j'ai travaillé sur beaucoup de typos, d'icônes, d'objets graphiques, en fait, qui étaient en symbiose avec l'objet matériel. Et ce côté-là m'a toujours intéressé, le côté digital, le côté matériel. Ce qui m'a amené à travailler rapidement sur le net, puisqu'au début, à la fin des années 90, début 2000, le net explosait et il y avait une forte demande dans ce domaine-là. Moi, j'ai été salarié pendant 1 an sur Paris. J'avais un super boulot. J'étais seul maître à bord, designer, pouvoir décider de l'aspect esthétique et fonctionnel des applications qui étaient développées. Donc, c'était pour des grandes entreprises, plutôt des grands médias comme TF1, des gens comme ça. Des gros labos aussi, Pasteur, etc. Et les contraintes techniques étaient assez fortes. Et au bout d'un an, je me suis dit, j'ai envie de proposer mes solutions sans avoir toujours un chef de projet, ingénieur, développeur sur le dos, si on peut dire, et arriver à proposer mes propres solutions, puisque c'était un marché totalement ouvert, tout restait à faire. Aujourd'hui, le net, c'est assez standardisé, ou en tout cas codifié. À l'époque, c'était vraiment l'imagination qui pouvait changer les choses. Donc ça ouvrait un terrain de jeu assez extraordinaire, et c'est à cette occasion-là que j'ai voulu me lancer début 2000. Oui, c'était en juin 2000, donc ça va faire pile 20 ans.
Ouais. Je savais que c'était ton anniversaire récent.
C'est ça. Merci pour le gâteau et les bougies.
Tu les as reçus, c'est bon?
Ah, c'est
Bah, du coup, ça vient spécifiquement avec une des choses dont je voulais parler avec toi. C'est là, du coup, ça fait 20 ans que tu es indépendant. Et c'est assez
bon.
intéressant, je trouve, que c'était année 2000. C'est presque tu as fêté le tournant du millénaire en devenant indépendant. C'est assez drôle.
C'est ça, oui.
Mais avec tout ce que tu as fait depuis, parce que là, ce que j'entends dans la raison pour laquelle tu t'es lancé, c'est d'avoir plus d'indépendance sur tes missions, sur comment tu gères tes clients, sur tout ça. Est-ce que la vision de base du pourquoi, elle a été validée en 20 ans, ou au contraire, tu t'es rendu compte que bah, c'était pas si facile?
Fait, elle a été validée chaque année. Je dirais la première année, c'est tout beau, tout neuf. Je te dis, c'était des années où il y avait beaucoup de boulot. C'était pas un problème de pouvoir se mettre à son compte et voir venir. Après, par la suite, on découvre au fur et à mesure le métier, gérer soi-même les clients, gérer soi-même les prospects, etc. On apprend petit à petit aussi à rajouter des cordes à son arc et à ne plus être simplement le designer d'une entreprise, mais être une entreprise à soi-même, en fait, hein. Donc, gérer les administratifs, commerciales, mais je vais dire, je l'ai appris sur le tas, en ayant beaucoup de missions d'avance et beaucoup une bonne visibilité à ce moment-là. C'était relativement facile de s'adapter aux
Ouais.
autres cordes qu'il fallait rajouter, si tu veux.
Donc dès le début, c'est allé assez vite sur l'acquisition de clients et ainsi de suite.
En fait, l'acquisition de clients s'est faite toute seule, puisque moi j'avais un boss qui était super. Enfin, on était très proches, on s'entendait très bien. Au moment où j'ai démissionné, c'était très clair entre nous. Il savait déjà que j'allais partir, parce que je pense que j'étais déjà par nature assez indépendant. Et
Ouais.
donc, Il était plus âgé que moi, il était assez visionnaire, il avait déjà anticipé ce que le net allait devenir, notamment côté technique, mais c'était plus un ingénieur, il voyait à peu près quelle boîte allait avoir besoin de gros tuyaux et de gros médias et de contenu et de design, etc. Et les premières boîtes, ça pouvait être basiquement France Télécom, TF1, etc. Et je ne me rappelle plus de la question, mais
T'en fais pas, c'était sur est-ce que c'était facile de te lancer au début? Mais du coup, je suis curieux aussi, au début, du coup, tu vendais quoi? C'était quoi les compétences que tu vendais à ces premiers clients?
Je dessinais des interfaces pour des intranets spécialement, ou des sites internet. Donc c'était faut se dire qu'à ce moment-là, en fait, personne ne concevait réellement des sites. Il n'y avait pas d'outils non plus de construction automatique de type WordPress, Wix, etc. Donc il fallait partir sur des outils de codage. Donc j'ai appris le HTML, le CSS, etc., JavaScript sur le tas. Mais comme j'avais déjà un background de design, le codage n'était pas, c'est pas ce que je vendais au premier plan, si tu veux, c'est ce que je faisais derrière, mais je proposais plutôt des solutions. En fait, faut se dire que ces grosses entreprises qui aujourd'hui maîtrisent parfaitement le net, à cette époque, n'avaient même pas de personnes dédiées à ça. Ils avaient des informaticiens, mais qui géraient la compta, qui géraient le suivi de clients, etc., qui ne géraient absolument pas leur présence en ligne. Donc, toutes les qu'on pouvait avoir étaient prises, étaient le bienvenu, que ce soit dans des toutes petites boîtes qui étaient plutôt précurseurs ou des grosses boîtes qui voyaient qu'elles devaient prendre un virage assez, assez serré et assez important. Donc,
J'allais demander, est-ce que le fait que tu arrives sur le marché à ce moment-là avec ces compétences qui, au final, étaient ultra recherchées, est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui a fait que bah, tu étais au bon endroit au bon moment avec la bonne compétence et que du coup, c'est allé assez vite sur ton activité?
tout à fait. Le début, je l'ai même pas senti. En fait, j'ai senti une grosse charge de travail et je me suis aperçu que la grosse charge de travail que j'avais chez un patron dans un bureau, je préférais l'avoir chez moi et la gérer moi-même. Donc, c'était les 2 premières années, c'était vraiment tout bénef. C'était facile, hein. Après, il y a toujours le côté administratif, le côté commercial qui te rattrape à un moment ou à un autre. Tu changes de statut, les impôts ne savent pas forcément où te caser, etc. Quand tu dis designer de site web, ils te disent designer de quoi? Enfin, les 3 mots pour eux, c'était déjà. Faut les définir chaque mot, si tu veux. Mais c'est ce qui était intéressant aussi, parce que j'avais l'impression, c'était le cas, d'être un peu pionnier sur un marché qui allait en se développant, donc c'était plutôt agréable. C'était une bonne vague à suivre, disons.
Et du coup, bon, je vais peut-être passer pour un bébé en disant ça parce que, ben, en l'an 2000, moi, j'avais 6 ans, mais ça ressemblait à quoi le marché indépendant à ce moment-là? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était courant pour des designers comme toi qui sortaient d'agences ou de grosses boîtes de se dire, ben, je vais le faire à mon compte? Est-ce que t'étais un peu genre seul et que tout le monde te disait, c'est quoi ce que tu fais? Tu devrais pas faire ça?
Disons, les designers et les graphistes existaient déjà largement, même avant l'arrivée de l'ordinateur. Mon premier stage, j'ai
Ouais, ça
travaillé
oui.
avec des mecs qui traçaient leurs lettres au stylo, au feutre, qui faisaient les illustrations à l'aérographe, etc. Donc ça existait. Il y avait déjà des designers et graphistes freelance. La nouveauté, c'était le web surtout. Et arriver sur un web qui était en train d'émerger et de proposer une offre cohérente, le plus souvent c'était je suis graphiste et ah vous êtes graphiste donc vous allez me faire des pages web. C'était un peu automatique pour ceux qui étaient en recherche de compétences et de présence en ligne. Donc on te posait pas vraiment de questions sur comment tu allais le faire, mais ils voulaient rapidement trouver une solution. À ce moment-là, il fallait beaucoup se former soi-même, parce qu'il n'y avait pas d'école dédiée au web design. Il y avait des écoles de graphisme, évidemment, mais tout ce qui était usage de l'interface, on va dire au sens large, des menus, des icônes, des boutons à cliquer, personne ne savait faire. En fait, il fallait improviser en se basant à la fois sur le graphisme traditionnel, donc de packaging ou du print, etc. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'était ceux qui développaient déjà des logiciels. Ouais, typiquement, Windows ou Mac OS, c'était des logiciels avec des boutons, des menus, etc. Et en fait, quand on se présentait comme web designer à ce moment-là, on était à cheval entre les deux. En tout cas, on l'expliquait comme ça. Moi, je sais faire des interfaces et je suis aussi designer, donc je vais pouvoir faire de jolies interfaces, faciles à utiliser, agréables, qui transmettent votre message et au service de votre projet, quoi. Donc, c'était finalement assez simple, puisqu'il y avait quand même deux univers qui étaient déjà bien installés. Finalement, le web a réuni ces deux univers à travers le web design.
Ouais, et comme la demande était très forte parce que bah, c'était le décollage de tout ça, et que l'offre, j'imagine, était entre guillemets plus rare et que t'en faisais partie, bah forcément, j'imagine que ça crée une dynamique de marché assez intéressante pour toi, quoi.
L'offre était plus rare, ce qui fait que les demandes étaient très diverses aussi. On pouvait t'embaucher pour faire des pubs, pour faire un site, pour faire une interface de travail, parce qu'il y avait aussi, ça commençait à se développer du software as a service, donc c'était des interfaces de travail. Donc arrivaient déjà les premiers logiciels de comptabilité online, des choses comme ça, de facturation en ligne. Bon, ceux-là sont arrivés trop tôt, on pourra en parler, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui ont tout vu avant les autres, mais trop tôt. Et ils ont fermé plus vite que les autres, c'est assez drôle. C'est assez triste et drôle à la fois. J'ai eu beaucoup de clients qui avaient des idées, mais aujourd'hui qui se sont
Ouais,
imposées.
trop visionnaire, quoi.
À savoir le logiciel installé directement sur le navigateur, tu ouvres Chrome ou Firefox, que tu veux, et tu as déjà ton logiciel installé. Quand ils proposaient ça à leurs propres clients, alors qu'ils étaient réellement en avance, ils se faisaient regarder de haut, parce qu'il y avait des informaticiens qui avaient l'habitude de concevoir des logiciels classiques installés sur le PC ou le Mac, et ils voulaient pas voir venir. Donc ces premiers clients-là, j'ai une forme de tendresse pour eux, parce qu'il y avait beaucoup de visionnaires et beaucoup sont arrivés trop tôt avec des idées beaucoup trop en avance, qui avaient parfois 10 ans d'avance, et qui se
C'est
sont
intéressant.
des fois coincés parce que justement
Ouais, parce que ça.
le marché n'était pas prêt, quoi. Les outils, on les avait, hein, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui.
Ouais.
Par exemple, simplement en WordPress, où tu peux gérer ton propre site, créer une page, une rubrique, rajouter une rubrique, rajouter du texte, une image, un carrousel, etc. Ça existait déjà, mais le marché n'était pas prêt, les clients n'étaient pas là.
Ouais, c'est intéressant, ça pose une vraie question aussi, même pour nous en tant qu'indépendants, de à quel moment c'est entre guillemets le bon moment pour apporter des transitions avec nos clients
C'est ça.
actuels, mais aussi proposer des choses un peu nouvelles que les gens n'ont pas vues, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant cette question de time to market.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le bon timing est aussi important que la compétence, en fait. Parce
Ouais.
que en tant l'essentiel et l'idée, c'est quand même de toujours développer de nouvelles compétences. Tu arrives avec un savoir de base, qu'il soit scolaire, universitaire ou même une expérience personnelle ou professionnelle antérieure. Tu arrives en tant que free, et là, tu vas devoir forcément développer des compétences, aller dans des directions que tu n'avais pas prévues au début. Ça peut être de ton propre de ton initiative ou par le biais d'opportunités qui apparaissent sur le marché parmi tes clients. Mais il faut savoir aller assez loin, mais pas trop loin.
Tu me fais la bonne transition, Laurent, parce que aujourd'hui, ta spécialisation, elle est toute autre. Sur ta page à propos, dans ton site, tu dis, voilà, après mes études, je dessinais des téléphones mobiles. Là, on parlait de ton travail, sur le design d'interface au début de ta carrière d'indépendant. Et aujourd'hui, tu as une spécialisation très poussée sur les logos et tout un discours autour d'ailleurs dont on reparlera parce que je trouve ça trop bien. C'est quoi, du coup, sachant que du coup, bah, ça fait 20 ans que tu es indépendant, c'est quoi, selon toi, les grosses évolutions de métier que tu as vues, la manière dont tu as dû t'adapter peut-être au changement de marché, enfin bref, les grandes étapes que tu as traversées en 20 ans?
Je dirais que il y a des règles et des constantes qui restent, quel que soit le marché, quels que soient les clients. Et il y a des évolutions techniques en même temps très très fortes et très rapides. Si on parle des technologies simplement pour construire une page web aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir il y a 20 ans. On pouvait rajouter des animations flash qui a été, je passe un message qui a été tué par Google et Apple. alors que c'était un langage
Ouais.
extraordinaire. D'ailleurs, on n'arrive toujours pas à faire la moitié de ce qu'on pouvait faire avec Flash, avec HTML5 et compagnie, mais bon, ils avaient d'autres desseins. Leur but, c'était de vendre des applications, donc il fallait surtout pas de logiciels qui tournent facilement sur les navigateurs. Donc, bon, bref, les technologies évoluaient très vite. Par contre, il y a des constantes qui restent, quel que soit le marché, quels que soient les clients, et ces constantes, finalement, c'est les bases, pour moi, c'est ce qui s'appelle les bases, ce que je dirais les bases du design. Donc, ça sera la mise en page, les proportions, savoir accorder les couleurs, savoir jouer avec photo, texte, image, titre, etc., créer des hiérarchies de construction et de lecture d'une page. Toutes ces bases-là que j'utilisais déjà en stage dans des agences de pub traditionnelles qui dessinaient les packagings à la main, tout ça, en fait, c'est resté. Donc, en même temps, il y a une évolution technique très rapide et en même temps, un point fixe, il y a des repères qui ne bougent pas. Je suis mon idée, mais au fil du temps, en fait, je me suis aperçu que je voulais plus m'intéresser à ces repères-là, plus approfondir ces connaissances classiques et intemporelles, pour justement un peu laisser partir, pas forcément trop loin, mais laisser la technologie évoluer et s'en tenir aux bases qui restent quand même assez, c'est assez étonnant comme elles restent intemporelles. Si tu vas voir des mosaïques à Athènes, si tu vois la dernière application App Store, tu vas retrouver des correspondances assez étonnantes sur les proportions, les couleurs, etc.
Ouais, je pense que tu vois le biais dans lequel on peut tomber, effectivement, surtout aujourd'hui où, enfin, tu me valideras ou diras que je raconte n'importe quoi, mais j'ai l'impression que le marché se renouvelle de plus en plus en plus en plus vite avec toujours des nouvelles technos qui sortent, des nouveaux outils, etc., etc. On peut se perdre très rapidement dans ce truc de, il faut que je sois spécialisé sur le dernier truc qui vient de sortir à la mode, alors que, et c'est d'ailleurs un modèle de réflexion qui s'appelle le modèle des principes premiers. Revenir aux fondamentaux, ça fait de nous des professionnels beaucoup plus résilients, durables, et on peut voir les choses venir. Et comme tu dis, tu parlais d'intemporalité, et je pense que c'est vraiment une clé de maîtriser c'est quoi les principes fondateurs derrière nos métiers. Et quand on maîtrise ça, au final, on peut l'adapter aux différents outils et on peut l'adapter aux nouvelles technologies si on peut les apprendre, quoi.
Oui, alors c'est important, je sais que quand tu es développeur aujourd'hui, c'est important aussi de savoir ce qui se fait aujourd'hui, même savoir ce qui va se faire demain. Mais pour avoir travaillé aussi avec beaucoup de développeurs, parce qu'un designer, il doit travailler toujours avec des développeurs, là aussi, ce qui finalement se repose sur les bases essentiel de, on va dire, par exemple, de la conception de base de données, le langage objet, le langage, je sais pas, c'est pas mon métier, mais en tout cas, qui connaissent des langages de fond, comme C++, etc., ça va après évoluer au gré du PHP, JavaScript, Node, etc. Ils n'ont aucune difficulté à passer d'un à l'autre parce que justement, les bases sont là et ils savent comment fonctionne un langage. Après, ils s'adaptent. Moi, j'ai vu des développeurs seniors arriver sans connaître le langage. Au bout d'une semaine, ils pouvaient éclater facilement les juniors qui étaient à la pointe de la technologie parce que justement, parce que les bases fonctionnent toujours. Ça n'empêche pas qu'il faut toujours se tenir au courant et évoluer parce qu'il y a aussi des tendances et des fois, les tendances sont plus fortes que les règles intemporelles, on va dire. Donc, il y a plusieurs vitesses, disons, c'est comme si on était sur une autoroute, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs vitesses. Des fois, il vaut mieux se mettre sur la voie de droite, des fois, il vaut mieux accélérer et doubler.
C'est une bonne métaphore.
Ouais, c'est assez, il y a plusieurs vitesses, il y a même des courants contraires, on peut dire. Donc, des fois, ça sert à rien aussi de s'acharner sur des domaines qui, de toute façon, vont être abandonnés.
Vont disparaître, quoi. Et du coup, tu dirais que c'est à quel moment de ta carrière où tu prends conscience de ça? Parce que je pense que c'est aussi quelque chose que tu vois avec le temps et que tu vois le marché évoluer plusieurs fois. Et tu te dis, bon, ben, en fait, moi, j'ai envie de me concentrer sur les fondamentaux. Et aujourd'hui, tu as un discours très profond sur les logos. Tu parles pas des logos comme n'importe quel designer le ferait. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que tu as eu cette réflexion de plus en plus profonde sur les fondamentaux, quoi. Tu penses que c'est à quel moment où ça a fait tilt dans ta tête de passer à cette étape?
En fait, les meilleurs professeurs quand tu es freelance, c'est les clients. C'est les clients et les prospects qui arrivent toujours avec une idée sur la table que tu n'as pas forcément de notion comment régler le problème. Ils ont ce projet, ils ont cette idée, ils ont cette vision et tu es souvent bousculé en fait en tant que freelance. Souvent, tu dois répondre et souvent te montrer à l'aise sur des sujets que tu as à peine effleurés des fois et que tu dois approfondir rapidement sur une mission. Et tu t'aperçois que le client, peut-être plus que le freelance, est encore plus soumis aux tendances et aux modes, puisqu'il va lire des magazines, des blogs, etc. Il va être très influencé par les mots, les derniers mots qui sortent. Et quand il consulte un freelance, justement, il attend qu'il soit au courant de tout ça et qu'il soit même en avance sur tout ça. Et ouais, tu t'aperçois qu'il y a une espèce de course petit à petit qui est assez... c'est un peu une course aux nouveautés qui n'est pas... qui est rarement fondée, si tu veux. Donc, c'est ne pas être en retard, vite, il faut prendre le train parce qu'il va partir, etc. Et tu t'aperçois que les réflexions de fond ne sont pas forcément menées. Et c'est aussi en tant qu'indépendant de dire que tu es vraiment au courant de ce qui se passe, tu sais ce qui va se passer, en tout cas tu essaies de l'anticiper, mais aussi tu sais qu'un projet c'est pas que courir après un train, c'est aussi réfléchir à ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire, pour qui on veut le faire. Et oui, des fois aussi avec des clients ça peut coller rapidement, il peut y avoir une entente, des fois il peut ne pas y avoir une entente sur ce que doit être un projet, et des fois il faut pas aussi hésiter à dire non et dire non, c'est pas pour moi.
C'est hyper intéressant, je trouve, ta réflexion sur le fait que parfois les clients ils arrivent avec beaucoup d'idées préconçues sur les opportunités. Moi je le vois beaucoup, une grande part de mes clients sont des startups, donc c'est vrai qu'il y a souvent des vagues de tendances de ce que ces startups là vont construire, ou en tout cas les idées qu'elles ont. Et je pense que c'est un rôle important qu'on se doit d'avoir en tant que freelance, quand on vient nous chercher pour cette expertise, de bien recadrer les choses. Et on a aussi la chance et l'opportunité, comme on travaille avec plein de clients différents, d'avoir cette visibilité sur plein de choses différentes en même temps. On n'a pas une vision monoprojet, quoi.
C'est le gros avantage du freelance. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à lui, je crois. C'est cette vision panoramique et des fois multisecteur aussi. Moi, j'ai des clients qui sont des fois à fond le nez dans le guidon sur leur projet. Ils ont raison, il n'y a que comme ça que ça peut avancer, mais des fois ça leur fait du bien aussi d'avoir un regard un peu plus extérieur, d'avoir touché à d'autres domaines et de dire vous êtes par exemple dans ce domaine, mais moi dans le domaine de la finance ou des banques j'ai travaillé autrement, peut-être que cette méthode là pourrait vous intéresser, ou en tout cas ça pourrait résonner avec votre projet. Et puis ça les amène ailleurs, disons, et ça leur donne un peu plus de recul, je crois.
Ouais, je pense que c'est un truc que j'ai l'impression que tu le fais très bien, toi, dans tes projets. Parce que du coup, pareil, en préparant l'épisode, je suis allé sur ton site et j'ai lu quelques témoignages et j'ai même pris des notes sur des petites citations que j'avais envie de traiter avec toi, parce que je vois qu'il y a un angle commun. Et du coup, je vais juste dire des petits morceaux de phrases. Il y a quelqu'un qui disait un excellent dialogue, quelqu'un d'autre qui disait avec quelqu'un qui prend tellement soin de bien comprendre votre personnalité, votre activité, vos envies, vos appréhensions, cela ne peut juste pas du tout mal se passer. Et la préparation du projet a été au moins aussi intéressante que de le voir se matérialiser. Ce témoignage-là, je le trouvais vraiment fort, parce que j'ai l'impression que ça montre à quel point tu mets de la valeur sur ce truc de l'accompagnement, quoi.
L'accompagnement, et tu viens de dire un mot important, je pense que la préparation est des fois aussi importante que le projet. C'est-à-dire que tu as souvent les clients qui viennent te voir avec une espèce d'urgence. Et c'est intéressant de se dire, OK, je comprends votre urgence, mais c'est peut-être le moment de réfléchir un peu plus profondément. J'aime bien poser la question, comment vous voyez-vous dans 5 ans? Parce que ça permet instantanément de mettre une distance sur ce qui se passe aujourd'hui, qui est très important. C'est là où tout se passe. Mais aussi toujours regarder quand même là où on va, Et ce qui permet justement avant même de commencer un projet, tout simplement de faire connaissance aussi, parce que quand une personne te dit précisément où elle se voit dans 5 ans, tu sais pourquoi elle se lève le matin, tu sais pourquoi elle a créé cette marque, ce site, ce produit. Et du coup, en la connaissant un peu mieux, c'est important aussi pour le designer. Ça te donne envie, en fait, de l'aider, cette personne, parce que tu vois qu'elle veut être là dans 5 ans, tu vois qu'elle en est parfois assez loin, même très loin, et tu sais que peut-être tu vas pouvoir apporter la petite brique qui manque pour co pouvoir continuer le mur, si tu veux. Et souvent, je me suis aperçu que quand je rendais certains projets, notamment dans les logos, c'est peut-être ça qui m'a décidé à me spécialiser dans ce domaine-là. C'est l'espèce de soulagement qui arrive chez le client, qui se dit, c'est bon, on va pouvoir repartir. Il avait peut-être l'impression d'être à l'arrêt tant qu'il n'avait pas son identité visuelle et graphique sous les yeux. Mais quand il l'a sous les yeux, si tu veux, il peut la prendre dans la main, il peut l'imprimer, il peut déjà se présenter de cette façon-là. Et ça donne l'impression d'avoir enlevé un barrage. Plus enlever un barrage qu'apporter du fuel, si tu veux. Plus, comment dire?
Non, je vois ce que tu veux dire, c'est
Ouais.
voilà, les clients, ils arrivent avec des freins et des choses qui les empêchent d'avancer. Et c'est une image que je prends souvent d'ailleurs sur l'identité visuelle, parce que je pense que ces freins-là, ils sont aussi au niveau inconscient. Il y a une phrase aussi sur ton site que j'ai bien aimé qui disait ça, c'est chaque entreprise a ses besoins connus ou cachés. Et il y a souvent plein de besoins cachés qu'il faut réussir à soulever et aller chercher dans les questions qu'on
Bien
pose et
sûr.
ainsi de suite. Et tu vois, sur l'identité visuelle, ce que tu dis sur les barrages, je pense que beaucoup de boîtes ou beaucoup de fondateurs, tant que leur identité visuelle, elle est pas, genre, ils sont pas fiers, ben, ils sont pas capables de bien vendre leur boîte, quoi.
Oui, puis j'ai travaillé récemment avec des gens qui montent des projets, qui sont uniquement fabricants de projets et qui revendent à d'autres entreprises. Et c'est souvent au moment où ils voient le début de leur logo, de leurs affiches, de leur univers graphique, on va dire, au sens vraiment large, pas uniquement le logo, qui commencent à croire à leur idée ou alors à s'apercevoir que c'était pas forcément ce qu'ils avaient en tête et à rajuster leur idée au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et c'est intéressant, le designer est aussi quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui fait des choses avec ses mains. Et des fois, ce qu'on fait, ce qu'on crée, contredit la théorie du client, parce que le client, il arrive avec une théorie, en quelque sorte. Moi, je voudrais avoir une identité qui dit ça, etc., qui montre ça de moi. Mais après, en l'ayant sous les yeux, il s'aperçoit qu'il va devoir le modifier, il va devoir un petit peu raboter les coins, si on veut. En fait, le côté artisan du designer, avec cet aller-retour entre théorie et pratique, entre dessin réel qu'on peut montrer et vision et intention qui sont plus verbales, on va dire, cet aller-retour entre le visuel et le mot et le texte et l'intention est intéressant parce qu'il est capable de faire évoluer les projets dans un sens des fois imprévu.
Comment tu fais du coup en début de projet? Tu parlais un peu de cette question que tu poses sur c'est quoi votre vision à 5 ans que tu poses à tes clients. Mais c'est quoi du coup est-ce que tu as d'autres choses que tu peux, enfin je sais pas si c'est des méthodes ou des questions que tu poses qui permettent un peu de dépasser cette première couche visible là dont les clients parlent et voilà, ils ont préparé leur truc et tout, mais aller vraiment toucher le fond quoi de ce qui est vraiment important pour eux.
En fait, l'idée au départ, c'est d'apprendre à se connaître, que ce soit par téléphone, en rendez-vous physique ou par mail, etc. L'idée, c'est de laisser parler le client, simplement pourquoi il vient me voir, pourquoi il a eu envie de taper à la porte d'un designer. Ensuite, moi, j'ai un questionnaire en général écrit. Je tiens beaucoup à l'écrit. Je pense que l'écrit permet au client aussi de mettre sur le papier ce qu'il dit des fois un peu à vitesse et s'en rendre compte en quelque sorte si ses intentions sont bien alignées avec ce qu'il a écrit, qu'il a sous ses yeux. Donc j'ai un questionnaire écrit que je peaufine un peu chaque année. Je lui donne, c'est comme un peu des millésimes si tu veux. Donc il y a le questionnaire 2018, 2019, 2020 parce que les intentions et les méthodes de travail évoluent pas tant que ça, finalement. Finalement, je pose toujours à peu près les mêmes questions, mais ce questionnaire écrit, des fois, ça peut être une panique pour certains clients qui ont l'habitude de parler de leur projet. Ils ont défendu leur projet devant des investisseurs, devant des associés, devant leurs employés. Ils sont arrivés à motiver des tas de personnes. Et au moment où je leur demande d'écrire quel est leur projet, quel sera leur projet, quel est leur client idéal, etc., là, il peut y avoir un vrai blocage et un vrai déblocage aussi, parce qu'au moment où on pose les mots sur la feuille, on s'aperçoit de ses réelles intentions. C'est un effet miroir, en quelque sorte.
Je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est un truc que j'utilise juste pour moi aussi, l'écriture de. On en parle beaucoup dans les sujets de développement personnel et tout, les 3 pages du matin. Enfin, voilà, être face, comme tu dis, face à tes pensées sur la feuille, t'en prends plus conscience parce que, ben, voilà, tu les lis, elles sont face à toi. Et c'est vrai que c'est un exercice, je pense, qu'on minimise parce que souvent les prises de brief, ben voilà, on prend un café, on discute, c'est au téléphone, mais c'est vrai que cette étape écrite, de faire écrire les choses à ses clients, ça peut avoir des vraies prises de conscience pour eux, quoi. Et je pense ça, ils associent cette valeur à toi aussi, du coup. C'est-à-dire que comme ils ont ces prises de conscience dans le cadre du fait de travailler avec toi, bah, ça joue aussi sur bah, la valeur que tu leur apportes.
Et c'est aussi important parce que c'est une phase où je leur dis souvent en plaisantant, maintenant, on va commencer le projet, ça sera à vous de travailler. En gros, parce que c'est vrai que le premier travail, la première pierre du projet, c'est eux qui vont la poser. Et des fois, ils sont un peu déstabilisés parce qu'ils ont un peu l'impression de passer une commande. Et en retour de la commande, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un questionnaire, en quelque sorte. Donc, c'est... Mais c'est aussi ce qui permet de les engager, eux, dans le projet, de ne pas être extérieur du projet. Je déteste l'idée de je vous commande un produit, un service, une page web, un logo, et j'attends. J'essaie toujours d'intégrer totalement le client au projet et de former une équipe. Souvent, je dis, pendant ces 15 jours ou ces 5 semaines, on va former une équipe pour faire avancer notre projet. Après, ça sera votre projet. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut que ce soit notre projet. Je suis pas un prestataire. Vous n'êtes pas. Il faut presque arriver à être collègue, en quelque sorte.
C'est une vision que tu as eue dès le début, ça? Ou c'est quelque chose qui, justement, au fur et à mesure de ces 20 ans d'indépendance, tu t'es rendu compte, ben voilà, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner?
Non, rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait faire équipe avec le client. Ça, c'est clair. Ceux qui refusent, ceux qui n'ont pas du tout cette culture-là, parce que la culture du projet, à savoir que les premiers jets, en général, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut. Ceux qui n'ont pas cette culture d'itération, c'est-à-dire on commence sur une première base, on modifie, etc., on discute, on voit ce qui va pas. De ceux qui attendent juste un résultat fini et parfait, c'est le genre de client avec qui j'aurais du mal à travailler, même avec qui je ne travaillerai pas probablement, parce que dès les premiers dialogues, on verra qu'il n'y a pas d'accord là-dessus. Et il y a une espèce de complicité à créer. Moi, j'aime sentir que ce projet, c'est mon projet, et quand je travaille sur un projet d'un client, c'est mon projet. Et je suis encore capable de le défendre aujourd'hui, même si c'est 10 ans plus
Ouais,
tard.
c'est cool.
Je crois que j'avais lu de ta part, tu parlais beaucoup des questions, là. C'est un sujet qui t'intéresse, même qui t'obsède, on va dire, de poser la bonne question. Et je crois que s'il y avait une chose à retenir, enfin, être prestataire indépendant, freelance, c'est d'abord poser des bonnes questions. Et ça, je pense que ça regroupe à peu près tous les métiers, que tu sois électricien, développeur, designer, ou expert LinkedIn, etc. Il faut d'abord, je crois, poser les bonnes questions. Et poser les bonnes questions, c'est pas évident. Ça prend du temps, des fois, à formuler. Ça prend aussi du temps de se dire que finalement, cette question, elle a pris beaucoup de temps au client pour y répondre, mais elle t'apporte pas grand-chose. Donc, il vaut mieux l'éliminer, etc. Tu vois, petit à petit, c'est une espèce de peaufinage perpétuel d'avoir le set de questions. J'aimerais poser qu'une question et que ça suffise, tu vois. Ça serait le but.
Je pense que c'est difficile tout encapsuler dans une question, malheureusement. Mais ouais, c'est vrai
Tout encapsulé dans une question, ça serait...
c'est.
Ouais. Quelle est la réponse?
C'est vrai que bah, peut-être que la question, c'est quel est le sens de la vie, Laurent?
C'est ça, hein? C'est ce qu'on recherche tous.
Je te rejoins à fond sur cette chose-là, et tu as raison, c'est effectivement un sujet qui me passionne parce que ça touche à tout au final, ça touche autant au côté professionnel que personnel, et du coup, je suis convaincu qu'aussi tu t'es posé plein de questions sur toi pendant ces 20 ans et pas que à tes clients. Et juste avant, j'avais envie de revenir un peu sur ta spécialisation sur les logos parce que tu as une manière très particulière d'en parler que j'apprécie particulièrement, mais j'ai une autre question que j'ai envie de faire avant d'arriver sur ça, c'est sur ton site, je crois que c'est la première phrase même, tu dis en 20 ans de pratique, j'ai acquis une conviction, et là tu enchaînes sur ton discours sur les logos. Moi j'aimerais bien savoir, c'est quoi, si c'est peut-être une grosse question que je te demande, mais si tu regardais en arrière sur ces 20 années, c'est quoi toutes les convictions marquantes sur ça veut dire quoi d'être indépendant, comment est-ce qu'on dure aussi longtemps? Parce que 20 ans d'indépendance, c'est tout de même une longue période. Il y a une statistique que tu n'as peut-être pas en tête, mais qui dit que 75% des freelances doivent cessent leur activité en moins de 5 ans parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, tu fais partie d'une infime partie des indépendants qui durent.
Déjà, je crois qu'il faut aimer travailler seul, être réellement indépendant moralement et mentalement, je dirais. Après, pour tout dire, l'histoire de cette crise et du confinement, j'étais assez étonné de lire ce que je lisais parce que c'est beaucoup en découvert un mode de vie en fait que j'ai depuis 20 ans, en quelque sorte, sans le masque. Mais ouais, déjà être indépendant dans sa tête et faire son propre emploi du temps, décider quelle direction tu vas prendre, etc. C'est plus qu'un indépendant sur le plan légal, si tu veux. Je crois qu'il faut avoir cet esprit-là un peu. Après, quelle conviction. L'indépendance, c'est aussi trouver ses propres sources d'apprentissage, si tu veux. Parce que c'est un domaine on n'a pas encore trop évoqué, mais c'est vrai que tu dois tout le temps apprendre, en fait, tous les jours ou presque. Et être indépendant aussi, c'est par rapport à un parcours scolaire où on te sert en quelque sorte, on te sert ce que tu es censé apprendre. Être indépendant, c'est choisir ce qu'on va apprendre, comment on va l'apprendre et comment on va le ressortir à sa propre façon, arriver à trouver son équilibre entre ce qui se fait et ce que toi tu veux faire. Et on parle souvent du web, c'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques sur le web, dans le développement, dans le design, etc. Ces bonnes pratiques sont à peu près universelles, mais il y a aussi la personnalité de chacun et c'est pas toujours évident de trouver quelle partie de ta personnalité tu vas pouvoir inclure dans ces bonnes pratiques. Et je crois que ça, c'est un couteau qu'on aiguise en permanence, en quelque sorte, parce qu'il y a toujours,
Ouais.
il y a toujours un nouveau.
Mais c'est infini la connexion.
C'est infini, ouais. Et je crois qu'en fait, si on s'arrête de chercher ça, je crois que c'est là qu'on arrête de devenir indépendant.
Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est en gros un des énormes enjeux qu'on a quand on est indépendant, c'est réussir à s'extraire de la course constante dont on parlait un peu tout à l'heure avec les clients et les tendances aussi, mais s'extraire de cette course en avant constante pour vraiment prendre le temps de se dire ben, en fait j'ai envie de construire une direction consciemment qui est la mienne et pas juste suivre le flow.
C'est
Que ce
ça.
soit sur comme tu dis la personnalité que j'ai envie de mettre en avant dans mon travail, comment j'ai envie de travailler, ce que j'ai envie d'apprendre pour l'apporter dans mon activité, etc.
Ouais, et cette direction n'est pas non plus définitive, hein. C'est pas une direction que tu décides il y a 20 ans et c'est une direction que tu vois au fur et à mesure que tu marches en quelque sorte. Le chemin se découvre au fur et à mesure et il peut arriver aussi et ça m'est arrivé et ça arrivait beaucoup de copains qui sont indépendants depuis autant d'années, c'est qu'il y a des fausses routes aussi. Il y a des moments où on s'aperçoit qu'on n'est peut-être pas allé dans la bonne direction, où on a voulu faire trop de choses à la fois. Finalement, on n'est jamais vraiment perçu comme un spécialiste dans un domaine, ou alors on est trop spécialisé. Du coup, on se coupe d'opportunités qu'on serait parfaitement capable de maîtriser et de mener. Donc,
De le
il faut
faire.
toujours mettre le curseur au bon endroit, disons. Et il y a un truc sur lequel on n'a pas trop parlé aussi, et je crois que c'est ce qui m'a peut-être le plus apporté, c'est de faire des projets personnels. À temps Entre deux missions, ou quand tu attends le retour d'un client, il met 15 jours à te répondre, etc. Ça peut arriver. Et d'avoir des petits projets personnels, petits ou gros, mais d'avoir toujours une espèce de bac à sable où tu vas pouvoir tester des trucs sans enjeu. Sinon, de te planter, mais c'est pas très grave parce que tu te plantes pour toi, tu vas corriger, tu peux tester tes idées, pas forcément sur les clients d'ailleurs, c'est pas conseillé sur les clients, mais de les tester, de les montrer pourquoi pas dans ton portfolio, etc. Mais de montrer que derrière, il y a une envie de faire des choses pour soi. Et je te dirais même que c'est ces projets personnels qui m'ont amené les plus belles opportunités.
Ouais, parce que finalement, c'est réellement représentatif de toi et de ce que tu as envie de mettre en avant et de comment tu as envie de travailler parce que tu es 100% en contrôle. Et quand tu
C'est
montres
ça.
ça, j'imagine qu'effectivement, il y a l'effet miroir où tu t'attires les choses qui ressemblent à ça.
C'est ça, tout à fait. Bon, en fait, quand je me suis lancé, dès la première année, je me suis lancé sur un site de jeux. Et je me suis aperçu que j'aimais concevoir des petits jeux pour les autres. En fait, j'aimais pas forcément y jouer, mais j'aimais cette idée, cette mécanique du petit jeu, comme du petit jeu électronique, tu vois, que tu joues rapidement en 5 minutes. Et j'ai testé l'idée, je l'ai mis en ligne, les gens ont commencé à jouer, j'ai commencé à faire des scores, etc. Et c'est là où j'ai eu des contacts les plus fabuleux, des grands médias qui avaient envie d'avoir ces jeux-là sur leur site, etc. Qui m'ont demandé de donner mon avis sur ce qu'ils étaient en train de produire. Parce qu'en fait, quand tu mènes un
C'est cool.
personnel, tu vas dans une direction. Peut-être que t'es le seul à prendre sur un moment, puisque t'es le seul face à ton projet. Et il peut y avoir des moments où cette direction où tu es seul, elle peut intéresser beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas fait ce chemin pour y arriver, si tu veux. Et tu t'aperçois qu'en marchant, ben, un peu comme Forrest Gump, derrière lui, il commence à courir.
Ça autorise les autres à y penser, à y croire, ça crée des nouvelles connexions que les gens avaient peut-être pas faites avant, effectivement.
En fait, ça crée un mouvement, mais c'est toi qui le crées, c'est pas un projet de client, etc. Tu vas vers un domaine qui te plaît, un truc que tu as envie d'explorer plus en profondeur, mais sans enjeu. Il n'y a aucun enjeu financier, ni
Ouais.
enjeu de carrière d'ailleurs. Tu n'essaies pas de quoi que ce soit, tu essaies juste d'explorer ce domaine et tu essaies d'aller le plus loin possible et tu t'aperçois des fois, quand tu te retournes un petit peu, que tu es devenu en quelque sorte un expert d'un truc qui n'appartient qu'à toi. Alors des fois, ça peut avoir une résonance
Ouais.
pour le public et pour le marché, ou pas du tout. Mais c'est rare que ça ne serve pas. Même les domaines où j'ai
Ouais.
aucun écho ni aucune mission commerciale derrière, je me suis aperçu longtemps après que ça avait enrichi ma pratique sur d'autres points. Donc c'est... En fait, quand on est en mission pour un client, on a rarement l'occasion d'aller dans ces profondeurs-là, si tu veux. Il y a un livre qui s'appelle
Ouais.
Deep Work, qui est excellent, qui justement démontre la nécessité de mener un travail en profondeur pour soi. Bon, c'est une notion assez scientifique dans le livre, mais ça peut être aussi valable dans des professions plus créatives ou la rédaction, etc. D'explorer vraiment très très loin un domaine, même au-delà d'une zone où tu pourrais être compris par d'autres, à la limite. S'il y a que toi qui comprends, c'est encore mieux. Parce que ça va t'ouvrir des champs que tu ne pourrais pas découvrir dans des missions courantes, disons, au jour le jour.
Qui était insoupçonné avant. Et puis, je pense que l'effet que ça a ensuite, c'est aussi à force de le faire, à force de le partager, t'emportes les gens dans un autre univers, dans un autre monde, et qui, pour toi, n'était pas qui était insoupçonné au départ, mais aussi à terme, permet à d'autres de dire, ah ouais, en fait, Laurent, il fait toutes ces choses-là derrière la vitrine de son portfolio, projet client. Tiens, c'est intéressant, on n'y avait pas pensé, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Je trouve que c'est un truc, ce côté de emmener les gens avec toi dans ton univers et dans ton monde. C'est quelque chose que tu fais super bien aujourd'hui dans la manière de parler, de ton travail sur les logos. Il y a toujours une petite histoire, il y a toujours des petites choses comme ça. Et je trouve qu'on rentre super facilement dans ton univers. C'est hyper appréciable.
D'accord. D'ailleurs, tu dois parler des carrousels, par exemple, que je publie sur LinkedIn. C'est un domaine d'exploration aussi pour moi en ce moment où je vais aborder un savoir ou un savoir-faire plutôt par une narration, par une histoire. Et c'est un domaine que j'ai envie d'approfondir parce que je m'aperçois, c'est récent en fait, que pour faire rentrer quelqu'un dans son monde, une histoire, c'est un petit fil conducteur qui permet aussi de faire accéder à des savoirs un peu plus profonds qui sont assez difficiles à transmettre de façon théorique et orale ou écrite. Mais on peut rentrer beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin dans la transmission d'un savoir par l'histoire que par exposer le savoir tel quel, le mettre sur le bureau et dire débrouillez-vous avec ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on approfondit le sujet par un projet personnel, sans le savoir, en fait, on est en train de produire une connaissance, en quelque sorte. Et cette connaissance, on peut l'utiliser soi, elle peut être transmise à d'autres, etc. L'idée, c'est qu'en produisant cette connaissance, on est un peu le signataire de cette connaissance. C'est ce qui permet aussi de créer sa propre identité, en quelque sorte, à travers ce qu'on a pu inventer, entre guillemets. Souvent, on redécouvre l'eau chaude, mais parfois, on découvre des domaines où peu de personnes ont accédé. C'est intéressant d'en être la signature aussi, si tu veux. Puisqu'on travaille à notre compte, c'est important aussi d'avoir cette notion de signature.
Et je pense que comme on le disait avant, ce genre d'expérimentation, ça te permet aussi de continuer, je vais reprendre ta métaphore, mais déguiser ton propre couteau, parce que, bah, encore une fois, un peu comme l'écriture, ces projets perso, c'est un peu à effet miroir, ah ouais, tiens, j'ai vraiment apprécié travailler sur ce sujet-là, tiens, ça me parle parce que je vois que mais c'est ça, du coup, je vais peut-être emmener plus ça dans mon activité, enfin, encore une fois, c'est un sujet de connaissance de soi. Donc c'est genre, on a des feedbacks sur nous, sur notre travail, sur ce qu'on aime, et on va le réinjecter dans notre activité.
C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que je m'aperçois aussi que plus tu réfléchis sur ta propre pratique, plus tu t'aperçois que déjà tu mets des mots sur ce que tu sais, mais ce que tu sais pas forcément dire. Et ça c'est la partie écriture qui est super intéressante. Je me suis remis à écrire il y a 2 ans de ça, et je me suis aperçu en fait que j'avais acquis des tas de savoirs que je soupçonnais pas en quelque sorte. Et comme je les soupçonnais pas, je n'étais pas à même de les verbaliser, de les transmettre, si tu veux, que ce soit à des clients, à des copains ou des contacts ou quoi que ce soit. C'est que tant que t'as pas fait ce travail sur soi, des fois tu t'aperçois que ton expérience ne sert à rien ou elle ne sert qu'à toi, dans le sens où tu es incapable de la.
Tant que tu la verbalises pas, au final, elle est là captive dans ton cerveau
C'est ça, elle
et pas au
n'existe pas
service
en
du monde.
quelque sorte. Ouais. Elle peut être au service
C'est hyper.
d'une pratique, si tu veux, mais elle n'accède pas à la connaissance d'un autre, si tu veux, d'une autre personne. Et je crois que notre mission aussi, c'est de quelque part, quand je finis une mission de design, le client est quelque part devenu un peu le designer, si tu veux. Et j'aime bien l'idée qu'ils repartent aussi avec, en se disant, ouais, maintenant, finalement, je peux faire des jugements sur une esthétique, sur un symbole, sur la signification d'une couleur, etc. Je peux faire un jugement. Des fois, un client arrive en disant, moi, j'y connais rien à ça, débrouillez-vous. Et je m'aperçois qu'au fil du projet, il commence à aiguiser son sens critique. Et ça, je trouve ça, c'est assez bluffant de voir qu'on peut aussi transmettre autre chose qu'une prestation. On peut transmettre une connaissance d'un domaine. Et par exemple, sur un choix de typo, il y en a qui vont arriver avec une idée préconçue en se disant, moi, je veux ça parce que mon fils, il aime bien ça, et ma femme m'a dit que c'est super. Et après, s'apercevoir que c'était un choix totalement instinctif qu'il avait, et que tu lui as fait découvrir d'autres familles de typos, d'autres façons d'aborder la lettre, disons, et il repart avec une connaissance, et pour son futur projet, ça va lui servir aussi. C'est une transmission, en quelque sorte.
Ouais, une espèce de croissance commune. C'est vrai que moi aussi, j'ai complètement cette vision
C'est ça.
de ce que j'ai en relation avec le client soi. C'est on grandit ensemble à la fois en développant un projet, mais aussi dans nos connaissances, dans ce que je peux lui apporter. Et pour moi, c'est hyper important ce truc de l'éducation client, de les apporter, d'apporter ça dans nos missions aussi. Et ça fait des liens plus forts avec nos clients, quoi.
En fait, le client éduque le freelance éduque le client, et le projet nous éduque à tous les deux, parce qu'en général, le projet a aussi son mot à dire. C'est assez étonnant, des fois, dès qu'on commence à travailler dans une direction, comment le projet va lui-même répondre en disant non, c'est pas la bonne direction, il va falloir repartir dans l'autre sens, ou
Ouais.
alors approfondir le domaine là que vous avez totalement négligé dès le départ et qui mérite d'être. C'est assez. En fait, on est trois, hein, le client, le freelance et le
Et
projet.
le projet lui-même a une identité. J'ai une dernière question à poser qui est vraiment une curiosité personnelle avant qu'on arrive sur les questions rituelles de fin. Sur ton site, et tu m'as envoyé le document que j'ai beaucoup aimé lire, tu as un document qui s'appelle Logo de conquête, qui est au final une sorte de portfolio revisité où tu vas en profondeur sur l'étude de chacun de tes projets, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est malin le fait de mettre le fait de télécharger ton portfolio avec une adresse mail sous couvert de livre blanc, etc. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et j'aimerais bien savoir, parce que t'es pas seulement spécialisé dans les logos que tu crées, tu les appelles du coup des logos de conquête. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi l'histoire et la prise de conscience derrière le fait d'arriver sur cette terminologie de logo de conquête. Parce que j'imagine que c'est encore une fois une mûre réflexion en profondeur sur ce que tu as envie d'apporter, sur le rôle que tu veux donner à ce que tu crées, et ainsi de suite.
En fait, le titre est venu à la fin. Je ne sais pas, j'avais déjà entendu des écrivains qui écrivaient le livre et à la fin, ils écrivaient le titre. D'autres commencent par le titre. Le titre est venu à la fin dans le sens où je me suis posé devant mon Word, j'ai ouvert une nouvelle page et j'ai pris les logos qui me semblaient les plus réussis, ou en tout cas que moi j'aimais personnellement, j'aurais aimé garder pour moi, mais que j'ai dû lâcher au client et que le client utilise tous les jours, que le client a ressenti une vraie satisfaction, un soulagement, cette envie de se dire, ça y est, ça c'est moi, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et j'ai repris tous ces logos et je me suis demandé pourquoi on les a fait, pourquoi il est venu me voir en fait. Parce qu'une fois, quand on est dans un projet, on n'a pas le temps de se poser tout ce genre de questions. Et je me suis dit, mais pourquoi il est venu me voir? Je le savais quand j'ai dessiné le logo, je connaissais ses ambitions, pourquoi il avait besoin à ce moment-là d'une nouvelle identité, d'une nouvelle marque, etc. Mais j'ai voulu le faire en son absence, en quelque sorte, et redémonter le projet, revenir en arrière, si tu veux, un peu comme un making-of. Et j'ai repris les brouillons, etc. Et je me suis aperçu qu'à chaque fois, il y avait c'était, comment dire? C'était réellement un véhicule, en quelque sorte. Ce logo avait pour but de porter beaucoup, beaucoup de choses sur ses épaules. Heureusement que je ne le savais pas, parce que des fois, j'aurais eu le
La pression.
stress et le trac ouais. Mais oui, derrière, il y avait des vraies ambitions, une vraie envie de se rapprocher de type de client, parce qu'en général, mes clients ont des clients. Donc, ils veulent un logo parce qu'ils ont aussi l'intention de se rapprocher de leur client idéal. J'utilise beaucoup ce mot parce que ça me paraît le plus pertinent quand on commence un projet comme ça, de se dire quel est mon client idéal et comment je vais aller vers lui, comment je vais lui tendre la main, en quelque sorte.
Ouais.
Et oui, j'ai eu envie de prendre un peu mes meilleures réalisations, en quelque sorte, et me dire qui était ce client, pourquoi il est venu me voir, et finalement, on a abouti sur ça, et qu'est-ce que ça lui a permis d'atteindre, est-ce que ça a atteint son objectif ou pas, ou est-ce que ça a atteint un autre objectif? C'est très difficile, et il faudrait être assez prétentieux pour se dire, moi j'ai fait un logo pour toucher les hommes de 30, 35 ans, cadres, etc. Non, on essaie, on part toujours avec cette idée en tête. Mais on est dans le domaine de la symbolique et il y a beaucoup d'interprétations possibles à tous les signes qu'on croise. Depuis notre naissance, nous croisons des signes et on interprète en permanence notre entourage et les logos font partie de ces signes qu'on interprète. Et voilà, j'ai eu envie en fait de démonter point par point chaque projet et me regarder dans la glace en me disant est-ce que tu as vraiment apporté quelque chose à ce client ou est-ce que c'est tombé à côté, est-ce qu'il l'utilise encore, etc.
Donc de nouveau une analyse bien profonde de ton propre travail et de te remettre face à ça pour prendre conscience aussi du rôle que tu as joué avec ces projets, quoi.
C'est ça, et c'est aussi une manière, comme on en parlait avant, de mettre sur le papier, de mettre à l'écrit des connaissances qu'on n'a pas forcément quand on est vraiment le nez dans un projet. Des
Ouais.
fois, le client ne nous dit pas tout, en plus, on a dit, des fois il y a les projets, les volontés déclamées, mais il y a celles qui sont cachées. Et c'était intéressant aussi des fois de revenir sur des projets qui ont 2, 3 ans, même 5 ans, et se dire... Finalement, il m'avait pas tout dit parce que ce logo, il en a fait autre chose et il a utilisé autrement. Comme c'est assez étonnant. Et le fait de le mettre par écrit, ça me permet aussi de savoir ce que je sais, si je peux dire, et de pouvoir
Ouais.
le transmettre à mes clients et prospects. Quand quelqu'un vient me voir avec un besoin précis, vu que j'ai étudié ce que j'ai déjà fait en quelque sorte, je peux aussi lui dire ce que je peux lui promettre de façon réaliste.
Ouais.
Il va pas découvrir la lune, mais il va s'en rapprocher un petit peu, quoi. C'est un peu l'idée.
Trop bien, merci pour ce partage. Ça répond très bien à ma question de curiosité. On va arriver du coup sur les questions rituelles de fin. J'imagine que la première, t'aurais plein d'histoires à nous raconter. Mais la première, c'est du coup, en 20 ans d'indépendance, c'est quoi le plus gros challenge face auquel tu t'es retrouvé et comment est-ce que tu l'as dépassé?
En fait, on l'a un peu évoqué par petits bouts, mais l'idée, c'est que quand tu es sur un projet ou sur plusieurs projets, en étant indépendant, tu travailles seul, t'as pas forcément de collègues, pas forcément de recul. Tu peux rapidement avoir le nez dans le guidon, en quelque sorte, et d'être vraiment au taquet, le nez à 2 mm de la feuille, en quelque sorte, et de perdre de vue... un horizon plus large, à savoir ce que tu veux faire. Est-ce que c'est vraiment ce projet-là que tu voudrais faire tous les jours, ou est-ce que c'est un projet temporaire? Parce que ça existe aussi. On apprend sur chaque projet. Il y a des projets qu'on aime un peu moins faire, d'autres qu'on est à fond dedans. Mais dans tous les cas, c'est facile d'avoir le nez dans le guidon, comme je dis, de ne pas regarder ce qui se passe à côté, de pas regarder les tendances, etc. À l'inverse, tu peux aussi avoir et ça m'est arrivé plein de fois, où tu vois les choses peut-être de trop loin, tu regardes un peu trop ce qui se fait ailleurs. C'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs, mais quand tu fais que ça, ou quand tu fais que de la veille, en quelque sorte, quand tu oublies de produire ton propre produit, tu peux rapidement devenir un super visionnaire, mais qui ne rencontre pas le client au bon moment, si tu veux.
Ouais,
Et
qui est
en
pas
fait,
là.
le challenge, c'est vraiment de mettre le regard au bon endroit de l'horizon. Si tu regardes trop loin, tu regardes peut-être sans doute beaucoup trop loin. Si tu regardes tes pieds, tu vas te casser la figure au prochain virage, probablement. Donc, de mettre le regard toujours au bon endroit.
C'est une belle métaphore.
Si tu regardes trop près, vraiment, tu risques de passer à côté de beaucoup d'opportunités, notamment des opportunités à long terme, parce que c'est pas ce qui est intéressant, c'est pas uniquement ce qui va se faire demain, mais aussi après-demain. Mais aussi si tu es trop proche de ce que tu fais, si au contraire, je veux dire, si tu es trop visionnaire, tu vois pas ce qui se fait aujourd'hui et tu passes aussi à côté de beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup d'opportunités à prendre, beaucoup d'opportunités d'être en phase, hein, en quelque sorte, avec les attentes de tes clients.
Ouais, c'est clair. Et du coup, par rapport à ça, et aussi par rapport à toutes ces autres choses qu'on s'est dites dans l'épisode, enfin, ou toute ton expérience d'ailleurs, si tu étais face à Laurent au tournant du millénaire qui se lance en freelance, c'est son premier jour où il se lève, il est indépendant, c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même?
C'est une question compliquée. Moi, je dirais que moi, j'ai commencé dans un contexte favorable, donc C'était facile, mais c'était aussi peut-être une illusion dans le sens où j'avais déjà un réseau qui se formait tout seul sous mes yeux. J'étais pas réellement actif dans la création de ce réseau. Et je dirais le meilleur conseil que je pourrais donner moi plus jeune, c'est d'aller vers des gens hors de ton réseau, même hors de tes projets, même franchement qui n'en ont rien à faire de ce que tu fais. Parce que justement, c'est à travers des fois des connaissances lointaines ou des compétences qui te paraissent lointaines mais qui s'avèrent avec le temps complémentaires. Je pense par exemple aux développeurs qui sont des gens formidables, que j'adore, qui sont capables de rendre réelles les idées les plus folles en interface et en design. Donc, ouais, d'aller vers des gens avec qui tu parles pas forcément le même langage, avec qui tu serais pas allé à l'école, parce qu'eux, ils sont plutôt allés dans des écoles d'ingénieurs, etc. Ou plutôt avec des designers, des gens qui dessinent la mode, etc. C'est d'autres univers, mais aller vers des univers très différents, justement, pour élargir son réseau, élargir ses connaissances. Parce que les plus beaux projets, en fait, ils sont pas avec des gens comme toi, en général. Ils sont avec des gens très différents.
Moi, j'aime bien cette vision aussi de se dire, c'est hyper important de se confronter à des gens brillants qui sont effectivement dans des domaines complètement différents, mais aussi parfois en désaccord avec nous, pour confronter ces visions du monde et notre réalité sortir de ça, quoi.
C'est ça. Et je pense qu'on bénéficie de ça en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel. Il faut surtout pas rester bloqué sur une pratique. Autant le travail introspectif est très important, comme je l'ai dit, écrire pour soi, etc. Mais aussi, des fois, il faut savoir absorber ce qui se fait ailleurs.
Ouais. Et encore une fois, du coup, on est dans ce truc de sortir de son flow facile de voilà, je suis avec les gens qui me ressemblent, on parle des mêmes sujets, etc. Sortir de ça pour voir la plus grande image et aller se confronter à d'autres milieux, d'autres personnes. Donc encore une fois, genre prendre de la hauteur sur le flot constant des choses et tracer sa propre voie en allant chercher les choses qui nous parlent.
Je parle de gens hors de ton cercle habituel, disons, mais ça peut être aussi des livres, des articles, etc. Des fois, se constituer une culture très large, en fait, hein. Que ça soit sur les sciences qui m'inspirent beaucoup, mais aussi, je sais pas, la philosophie, l'ingénierie, le business, etc. Lire des choses très très différentes, des fois même qui peuvent heurter, mais qui apportent aussi une culture assez large aussi pour pouvoir discuter avec tout le monde. Parce que quand on est prestataire, on est potentiellement on peut parler avec des gens très très variés. J'ai déjà
Complètement, ouais.
pour des écoles religieuses comme des financiers dans le trading à haute fréquence, etc. Donc c'est des gens très très variés qui ont des modèles mentaux
Ouais.
très différents et du coup c'est important d'avoir cette culture assez assez large. Pas forcément profonde, hein. Profondeur, elle vient dans son propre domaine, mais c'est bien aussi d'avoir une étendue, de connaître beaucoup de sujets pour pouvoir aussi avoir une base de discussion commune. C'est le but.
Merci pour ces partages, c'est vraiment cool. Et du coup, on arrive sur la dernière question qui est ma favorite. C'est
Oui.
si t'as une question à poser à nos auditeurs pour qu'ils prennent un temps de réflexion en profondeur justement sur leur activité de freelance ou leur vie d'indépendant au sens large, quelle est cette question?
Alors, c'est une bonne question qui appelle une autre question. Moi, je dirais de faire ce petit bilan. Je m'y exerce depuis quelque temps, de faire un petit bilan hebdomadaire et de me dire qu'est-ce que j'ai appris cette semaine et comment je pourrais en faire utile pour la semaine prochaine, par exemple. Tu vois, c'est pas du très court terme, c'est pas non plus du très long terme, mais la semaine, ça me paraît une bonne. Ça me paraît un bon tempo, disons, pour le freelance. Parce que des fois, dans une semaine de fou, t'as pas le temps de te poser de questions. Tu dois passer d'un projet à l'autre et produire, hein. Produire des idées, c'est pas toujours évident, mais essayer de produire et de convaincre. Et à la fin de semaine, de se dire, ouais, j'ai peut-être appris un truc important. Vaudrait mieux pas, je le laisse passer, ce truc. Mais qu'est-ce que c'est et comment je pourrais le réutiliser la semaine prochaine ou le mois prochain. Je pense que c'est une belle façon
Trop
de
bien, merci.
progresser.
Ouais, je la trouve top et c'est effectivement une pratique qui a beaucoup, beaucoup de vertus que de faire ce petit questionnement intérieur de manière
Si je
régulière.
peux le résumer rapidement, c'est à la fois être concret et prospectif. Tu vois, ces deux adjectifs, c'est vraiment, c'est peut-être une attitude d'artisan, ou je ne sais pas, mais d'avoir un peu la vision du chercheur qui imagine un avenir à 20 ans, et à la fois ce que tu as vraiment sous la main, et qu'est-ce que tu peux en faire, quoi. Ça, c'est, je trouve, c'est assez. Je trouve que c'est
C'est une bonne.
un moyen de progresser de semaine en semaine. Progresser au jour le jour, ça me paraît un peu ambitieux. Je lis beaucoup de choses là-dessus. Mais... Peut-être qu'on progresse tous les jours, mais si on arrive à progresser chaque semaine, c'est déjà pas mal.
Ouais, et puis merci pour cette bonne conclusion. Tu résumes bien notre discussion avec ces deux mots, donc c'est chouette. Merci pour ça. S'il y a des
Merci à
gens qui
toi.
veulent aller approfondir la discussion, en savoir un peu plus sur toi, suivre ton travail, où est-ce que je les envoie?
Tu peux les envoyer sur mon site d'abord et sur LinkedIn. Je suis
Donc ton site c'est vsad.fr, c'est ça? Ou .com, je sais plus.
vessa.fr
Ok.
et sur LinkedIn, lien en commentaire. Lien en premier commentaire.
Ah, il y a un premier commentaire, ce sera dans la description pour tous ceux qui veulent aller interagir. Merci Laurent pour cet échange, vraiment
Merci
cool.
Thomas.
Je suis ravi de t'avoir accueilli et on se dit à bientôt.
Merci pour tes questions, à bientôt.
Alors, je sais pas trop par où commencer. Pour faire un petit bilan de cet épisode, tant il était riche d'apprentissages que je trouve vraiment importants pour nos activités respectives. J'ai adoré avoir cet échange avec Laurent et je pense que ça relate bien de la prise de recul que l'on se doit d'avoir sur son activité pour qu'on puisse chacun petit à petit en faire quelque chose de réellement sur mesure pour nous. Et on voit bien aussi dans cet échange comment les itérations successives à la fois des questionnements, plus d'introspection, mais aussi de la diversité des expériences qu'on peut avoir avec nos clients et sur le terrain. Et que c'est justement cette itération successive, le fait de constamment revenir et se poser de nouvelles questions, qui permet de se rapprocher toujours, toujours plus de ce qu'on souhaite vraiment construire pour soi. Et j'ai bien aimé la métaphore de Laurent qui dit que c'est un couteau qu'on ne cesse d'aiguiser. Et j'adore cette image et j'espère qu'elle te plaît tout autant. Donc si cet épisode t'a plu, ce serait vraiment fantastique que tu puisses laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou alors ton application d'écoute préférée si tu es sur Android. Parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à porter ce projet et ce podcast dans les oreilles de nouveaux indépendants. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire un grand merci à Coco Freckles de son pseudo, qui disait dans son commentaire récent que les épisodes de Young, Wild and Freelance la mettaient vraiment dans un super état d'esprit dès le matin. Et j'adore recevoir et lire vos feedbacks et voir comment ces contenus vous accompagnent dans votre quotidien. Donc merci à Coco Freckles et merci à toi pour le commentaire que tu laisseras aussi. C'est trop cool. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!